Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette série où je vous propose de décrypter les principaux types de fraudes rencontrées par les entreprises en 2019. Donc on avait déjà vu ensemble trois types de fraudes qui sont donc le faux fournisseur, le faux président et puis sa version plus générale, l'usurpation d'identité. Et ces trois types de fraudes-là ont un point en commun, c'est que leur mise en œuvre n'est pas dépendante d'un outil informatique, contrairement à celle qu'on va voir aujourd'hui qui concerne l'intrusion justement dans le système d'information de l'entreprise. C'est donc le premier type de fraude qui est purement technique. Alors j'ai bien entendu essayer d'être le plus compréhensible possible et ne pas utiliser de termes techniques, mais si jamais il y a des termes qui vous échappent, n'hésitez pas à m'écrire un message, vous trouverez mon adresse sur le site fraudologie.fr. Donc il existe de très nombreux types d'attaques informatiques, mais je vous propose de nous concentrer sur celles qui cherchent à entrer dans votre ordinateur pour par exemple essayer de récupérer de l'information sur vous ou votre entreprise, ou pour bloquer l'ordinateur en attendant le paiement d'une rançon. Alors il existe plein d'autres types d'attaques qui sont purement informatiques, qui peuvent par exemple essayer de bloquer un serveur informatique en lui envoyant des millions de demandes en même temps. En fait, le serveur, quand il va recevoir toutes ces demandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce pour quoi il est programmé, c'est-à-dire il va essayer de répondre à chacune de ces demandes. Mais ça lui demande énormément de ressources en mémoire et en capacité de calcul, et ça finit par le saturer. C'est un peu comme si on vous demandait à vous de faire 10 multiplications en même temps. Eh ben, une, ça va. Deux, ça peut aller si elles sont pas trop compliquées. Mais au-delà, ça devient vraiment difficile d'arriver à répondre à tout le monde, et donc on sature. Et bien le principe avec les attaques sur le nombre de demandes, c'est exactement la même chose, on cherche à saturer un ordinateur. Donc nous on va se concentrer sur ce qui peut toucher un être humain derrière son logiciel ou son ordinateur, son logiciel de messagerie ou son ordinateur. Donc on va commencer avec les rançongiciels. En français et en anglais ça donne ransomware. Donc c'est des logiciels malveillants qui vont essayer de bloquer votre ordinateur. Et pour débloquer votre ordinateur, on va vous demander de payer une rançon en échange de la libération de l'ordi et de vos données. À titre personnel, ça peut être hyper ennuyeux évidemment, mais à titre professionnel, ça peut être carrément dramatique. C'est par exemple ce qui est arrivé à Honda Motors au début du mois de juin 2020. Et ils ont été obligés de repousser le redémarrage de leurs usines après les fermetures liées au coronavirus, avec des pertes de production qui sont hyper significatives dans le cadre d'un groupe industriel de cette taille. Et donc je profite de cet exemple pour faire un petit aparté sur la visibilité des fraudes. J'entends souvent dire « ça n'arrive qu'aux grosses entreprises, je n'ai jamais entendu parler de petites boîtes qui ont dû payer quoi que ce soit pour déverrouiller leur informatique ». À cela, j'ai envie de répondre qu'on n'entend parler que des grandes entreprises, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix que de rendre public ce qui leur arrive, parce qu'elles sont cotées en bourse et qu'elles doivent une information complète à leurs actionnaires et eux au marché financier. Mais c'est pas parce qu'on entend parler que des grandes entreprises que les petites ne souffrent pas exactement des mêmes problèmes. C'est juste qu'elles sont pas obligées d'en parler et surtout elles préfèrent se taire plutôt que d'avouer d'éventuelles failles dans leur système informatique. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet. Donc si je reviens à mes rançongiciels, ils peuvent ne bloquer qu'un seul ordinateur, mais ils sont souvent conçus par les hackers pour se propager sur l'ensemble du réseau de l'entreprise et atteindre les serveurs et bloquer toutes les données qu'ils contiennent et tous les logiciels que vous utilisez pour faire tourner votre activité. Alors évidemment, ça peut être la comptabilité, le CRM, ou en français, la gestion de la relation client, tous vos outils commerciaux, ou par exemple, le logiciel de commande de la machine numérique dans votre usine. Le problème avec ces logiciels malveillants, c'est que vous avez que deux choix. Une fois que vous êtes infesté, vous avez deux choix, soit payer pour qu'ils vous débloquent, soit refuser de payer. Si vous payez, vous allez probablement récupérer vos données rapidement, mais rien ne vous garantit que le logiciel n'est plus présent et qu'il ne peut plus vous bloquer de nouveau. Mais si vous ne payez pas, il faudra que vous ayez une solution de repli pour pas rester bloqué. Ça signifie qu'il vous faut un système de sauvegarde efficace et surtout qui aura été testé. J'insiste sur ce point parce que j'ai rencontré une entreprise il y a quelques années qui avait bien mis en place un système de sauvegarde, mais le système n'avait pas été vérifié dans des conditions réelles. Et le jour où ils ont été bloqués par un ransomware, donc un rançongiciel, et qu'ils ont voulu restaurer donc leur sauvegarde. Ils n'ont pas pu récupérer le travail des deux dernières semaines. Donc à l'échelle d'une PME, ça peut représenter une perte importante de production. Et sans compter en plus un aspect qu'on minimise souvent, c'est l'aspect humain de ce genre de fraude. Parce que quand vous êtes salarié d'une entreprise que vous avez bossé pendant deux semaines et qu'on vous dit notre système de sauvegarde n'était pas suffisamment fiable, on s'est fait avoir et tout le travail que vous avez fait pendant les deux dernières semaines est perdu, vous imaginez l'impact sur la motivation des salariés qui subissent aussi cette perte de leur propre travail. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous hébergez vos propres serveurs informatiques dans votre entreprise, il faut impérativement tester la restauration des sauvegardes régulièrement pour être sûr que vous ne vous retrouverez pas dans la même situation. Alors bien entendu, vous pouvez faire confiance à votre système informatique pour bien faire les choses, mais mon propos ici est de vous faire connaître les risques qui existent et pas de vous dire que votre service informatique ne fait pas bien son job, pas du tout. Au contraire, et je vous souhaite que ce soit le contraire. Alors vous pouvez aussi mettre en place des solutions externalisées, c'est-à-dire que vos serveurs sont hébergés chez un prestataire et c'est lui qui est chargé de gérer vos sauvegardes et la sécurité de vos données qui sont hébergées donc chez lui plutôt que d'être sur vos serveurs dans votre entreprise. Vous pouvez donc externaliser tout ou partie de votre informatique et c'est bien entendu à vous de trouver la solution technique qui convient à votre activité et à votre budget. Alors des fournisseurs de ce type de service qu'on appelle du service en mode cloud, il y en a plein, que plus gros, enfin plus ou moins gros, français, pas français, il y a plein d'offres sur le marché. Toutes aussi probablement pertinentes les unes que les autres, mais c'est des choix entre l'hébergement de vos données à l'intérieur de votre entreprise parce que vous préférez ne pas les confier à un tiers ou minimiser votre budget d'informatique parce que vous n'avez pas besoin d'acheter des gros serveurs pour gérer ces données, les systèmes de sauvegarde qui vont avec, mais vous êtes du coup tributaire d'un tiers, même si le coût récurrent est moins élevé que l'entretien de l'informatique interne. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur les rançongiciels et la manière dont ils fonctionnent et comment vous pouvez vous en protéger. Mais il me paraît encore plus important de parler donc de la manière dont se prennent les fraudeurs pour faire rentrer les virus sur votre ordinateur. Parce que le rançongiciel, c'est bien le logiciel qui est arrivé chez vous, qui a réussi à s'installer sur votre ordinateur. En l'occurrence, la porte d'entrée principale qu'utilisent les fraudeurs, c'est tout simplement votre email. Effectivement, votre messagerie, c'est le point d'entrée à la fois le plus facile à trouver et le plus fragile, parce que sa protection dépend pas seulement d'un système de sécurité qui pourrait bloquer les choses automatiquement, mais aussi de la manière dont vous gérez vos messages, vous en tant qu'être humain et en tant qu'utilisateur. Alors ce qui va suivre, c'est un peu difficile à vous décrire à l'oral, mais je vais essayer donc de vous décrire comment détecter que vous avez reçu un message frauduleux. Il y a quand même un certain nombre de caractéristiques récurrentes dans ces messages qu'on appelle du phishing ou de l'hameçonnage en français. Alors il y a pléthore de ressources sur Internet. Moi je vais essayer de vous les décrire à l'oral, sachant que vous allez voir les techniques s'affinent petit à petit et c'est de plus en plus difficile d'identifier à l'œil nu qu'un message est un message réel et cohérent ou un message de type une attaque d'hameçonnage, donc une vraie attaque de fraudeur. Toujours est-il que je vais quand même essayer de le faire et ces messages sont un moyen pour les fraudeurs d'entrer dans votre système informatique mais aussi de récupérer des données personnelles comme des identifiants et des mots de passe, des numéros de carte bancaire ou tout simplement des informations sur votre organisation qui leur permettra de préparer une fraude du type faux président ou faux fournisseur qu'on a déjà vu. Effectivement, vous avez compris dans ces épisodes précédents que le fraudeur, il a besoin d'informations sur vous et votre organisation pour être capable de faire une attaque qui soit réellement efficace. Donc voilà les principaux critères que je vous propose d'avoir en tête, en tout cas qui me paraissent importants d'avoir en tête, qui doivent vous alerter quand vous identifiez une anomalie. Alors le premier point, c'est l'expéditeur. L'expéditeur, il doit pouvoir vous aider à identifier que vous êtes devant un cas de potentiel de fraude de type hameçonnage. Parce que les fraudeurs vont s'adresser à vous systématiquement au nom d'une organisation, d'une personne ou d'une entreprise qui peut avoir de l'autorité sur vous. Alors ça peut être le dirigeant, ça peut être une filiale, ça peut être un actionnaire, mais ça peut être aussi une banque, ça peut être un fournisseur d'accès Internet ou la Direction Générale des Impôts, Apple ou qui que ce soit avec qui vous pouvez avoir un lien et qui serait susceptible de vous solliciter, ou ça paraît pas anormal que vous receviez des messages de sa part. Sur ce point, il me paraît important de souligner que toutes ces organisations, que ce soit des entreprises, des organismes publics, etc., tous ont bien compris que leur identité pouvait être utilisée malgré eux et que ça pouvait même les desservir dans leur relation avec leurs clients. Donc vous pouvez recevoir de temps en temps des messages, que ce soit à titre personnel ou professionnel d'ailleurs, de votre fournisseur d'accès qui vous dit par exemple que des mails frauduleux circulent et qu'il n'y est pour rien. Pour les banques, c'est exactement pareil. Elles n'envoient plus de messages en direct avec des pièces jointes, mais elles vous mettent des documents à disposition sur leur site. Et quoi qu'il arrive, elles ne vous demanderont jamais de saisir votre numéro de carte bancaire ou quoi que ce soit sur Internet. Donc attention à l'expéditeur. Déjà, si vous avez une sollicitation de quelqu'un qui peut avoir de l'autorité sur vous avec laquelle vous n'avez pas ou peu l'habitude d'échanger, ça doit vous alerter. Ensuite, le contenu du message. Donc ce qui doit vous alerter, c'est d'abord, par exemple, dans le cas où le message n'a pas de pièce jointe, l'objet du message, c'est quelque chose où le fraudeur va essayer de vous faire donner de l'information. Donc ça peut passer par une injonction de payer, une amende que vous auriez oubliée, ou de renouveler votre mot de passe, ou de mettre à jour un compte Apple ou je ne sais quoi, sous peine d'avoir des frais supplémentaires ou de se faire désactiver son accès Internet ou son téléphone. En tout cas, on va vous mettre la pression en vous faisant percevoir le risque de perdre quelque chose qui vous est important, soit de l'argent, soit des données vous concernant. Donc attention, dans le cas où on vous menace de représailles, s'il y a un lien dans le message, on va voir juste après comment essayer d'identifier que l'adresse du lien est normale ou pas, mais attention, dans le cas où il n'y a pas de pièce jointe à ce message, attention s'il y a des liens, ne cliquez pas dessus avant d'avoir vérifié que c'est bien cohérent. Toujours sur le contenu du message, si donc le virus et notamment le rançongiciel, il peut se retrouver dans un fichier en pièce jointe. Quelle que soit l'extension, ça peut être une image, un fichier PDF ou n'importe quoi. Avant de cliquer dessus, il faut vous assurer que la demande est normale. Il ne faut pas y aller par curiosité juste pour voir. Parce que si vous vous rendez compte que cette demande-là n'est pas normale, si vous avez un doute, parlez-en à vos collègues d'ailleurs, demandez-leur leur avis, restez pas tout seul, ou votre informaticien, pareil. Donc si le message vous paraît pas normal, il vaut mieux le supprimer au moindre doute plutôt que de risquer de faire une erreur, parce qu'un clic sur une pièce jointe ou un lien internet et c'est hyper vite fait, vous pouvez avoir des conséquences dramatiques comme récupérer un virus de type rançongiciel comme je vous disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un virus qui va permettre aux fraudeurs de capter en fait ce que vous tapez sur votre clavier. Et ça aussi, ça peut servir aux fraudeurs à récupérer de l'information, notamment les mots de passe que vous saisissez sur différents sites internet. Donc attention, un logiciel ou une pièce jointe d'une manière générale peut cacher un virus, donc ne l'ouvrez pas si vous n'êtes pas sûr de l'expéditeur. Donc ça, c'était le deuxième point, le contenu du message. Donc soit il y a des liens avec une injonction de payer ou en tout cas une mise sous pression, soit il y a une pièce jointe. Maintenant, juste un focus sur les liens. Pour déterminer si les liens qui sont dans votre message sont normaux ou pas, dans tous les outils de messagerie, vous avez la possibilité, avant de cliquer sur le lien, de passer votre souris dessus et de voir quelque part sur votre écran quelle est l'adresse à laquelle ce lien va vous amener si vous cliquez dessus. Il faut toujours que cette adresse soit cohérente avec l'objet et l'expéditeur. C'est-à-dire que si vous avez un message qui vous est envoyé de la part d'un pseudo EDF, par exemple, donc votre fournisseur d'énergie, avant de cliquer sur un lien, passez votre souris dessus et vous allez voir quelque part sur votre écran, notamment si vous avez un accès messagerie par Internet, en bas à gauche de votre écran, en fonction de votre navigateur, vous avez souvent l'adresse du lien qui va être ouverte, qui apparaît. Alors c'est souvent un https://, plein de trucs, mais au début de ce truc-là, après les deux slash, vous avez une information importante, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine du site Internet. Et en l'occurrence, si votre message vient de EDF, eh ben, il y a très grande chance que l'adresse, ce soit quelque chose, enfin HTTPS du coup, /quelque chose.edf.fr. Si c'est autre chose, c'est déjà louche. pareil avec votre fournisseur d'accès ou votre banque. Attention, votre banque, alors il y en a plein des phishing de la part de banques, notamment, moi je l'ai vu souvent du Crédit Agricole, où c'est un truc qui revient souvent. Attention à l'adresse internet, parce que quand vous tapez Crédit Agricole dans Google, eh bien vous allez vous retrouver avec une adresse qui vous dit que le site du Crédit Agricole, c'est crédit-agricole.fr. Si quand vous passez votre souris par-dessus le lien, vous voyez que le lien, il vous dit Crédit Agricole sans le tiret, et bien c'est pas normal, parce que le site Crédit Agricole sans le tiret, c'est pas le site officiel de la banque. Donc attention à ce petit détail, vous voyez, c'est des tirets, c'est des points, c'est pas toujours évident à identifier, mais il faut vraiment être attentif à ça, parce que ça peut vous amener sur des sites qui sont potentiellement frauduleux. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à votre service informatique ou à votre prestataire informatique. Vous lui transférez le message, vous lui demandez est-ce que c'est normal, ou si vous travaillez avec, mettons, j'avais l'exemple du Crédit Agricole, vous travaillez avec le Crédit Agricole, et bien transférez à votre conseiller ce message pour lui demander si c'est normal que vous ayez reçu ça avant de cliquer sur quoi que ce soit, encore une fois, que ce soit un lien ou une adresse ou une pièce jointe. Donc on a vu l'expéditeur, on a vu le contenu du message, on a vu les adresses qui sont dans le message sur lesquelles vous pourriez être susceptible de cliquer. Et il y a aussi un certain nombre de défauts dans le message. Alors, c'est pas toujours vrai, mais quand les fraudeurs qui utilisent ce type d'attaque sont pas hyper doués, ils essayent de faire les choses bien en mettant les bons logos, en mettant une jolie signature avec le service client. Mais souvent, il y a des petites erreurs en fait dans les contenus, donc heureusement les fraudeurs qui utilisent ces techniques de phishing misent sur la crédulité d'une toute petite minorité et se disent c'est pas grave s'il y en a qui voient la supercherie, si j'arrive à en attraper un ou deux c'est déjà gagné. Donc ils font pas très attention à la forme, et en plus notre belle langue française est tellement compliquée qu'elle est à elle seule une protection, parce que les attaques de type phishing viennent souvent de pays pas toujours très cléments. Alors je pense notamment à l'Asie, mais les premières fraudes arrivaient d'Europe de l'Est ou d'Israël. Et ils ne maîtrisent pas toujours très bien la langue française. Donc il y a souvent des petites coquilles de français, des fautes d'orthographe, de la syntaxe, comme si en fait ils avaient utilisé un logiciel de traduction qui avait mal fait son travail, et que les fraudeurs avaient tout simplement fait un copier-coller du résultat, l'avaient collé dans un message et l'avaient envoyé à des listes de diffusion qu'ils ont achetées sur Internet, en espérant que quelqu'un morde à l'hameçon. Donc ça veut dire que si vous recevez un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que le message contient des fautes grossières, n'hésitez pas une seconde, supprimez le message. Le risque est beaucoup plus grand de faire une erreur plutôt que de subir les représailles de l'expéditeur du message. Si vous avez réellement quelqu'un qui doit vous adresser ce message, il vous le renverra, et peut-être avec moins de fautes la deuxième fois. Vous voyez, il y a un certain nombre de cas où les fraudeurs sont pas très attentifs, mais de plus en plus, les techniques sont bluffantes d'élaboration et de professionnalisation. Parce que le fraudeur, quand il peut arriver à se glisser dans un échange de mails, notamment si votre fournisseur à vous, alors vous pouvez avoir une informatique qui est solide, mais votre fournisseur, je reviens à la fraude aux faux fournisseurs qu'on a vu il y a peu de temps, votre fournisseur peut aussi s'être fait frauder sa messagerie. Et donc le fraudeur peut arriver à se glisser entre vous et votre fournisseur dans un échange de mails, prendre la suite d'une discussion et arriver à obtenir de l'information ou à vous faire des règlements, des remboursements, que sais-je. Et c'est assez hallucinant la qualité des échanges. Ça peut vraiment porter des vrais doutes, parce qu'ils arrivent à avoir des informations hyper précises sur l'organisation des sociétés qui sont concernées, avoir un discours très cohérent avec ce qui est en train de se passer au sein même de l'entreprise, sur les noms des personnes qui interviennent, sur des associés, sur des partenaires. Donc il ne faut pas avoir trop confiance en soi et se dire je m'attends à un mail qui va être truffé de fautes et je vais vite l'identifier et ne pas me faire avoir. Non, il faut vraiment être attentif tout le temps. Et si vous ne connaissez pas l'adresse, ou si c'est quelqu'un qui vous envoie un mail et vous n'avez pas l'habitude de recevoir des mails de cette personne ou de cette organisation, attention à tous ces critères-là, donc encore une fois l'expéditeur, le contenu du message, les adresses, les pièces jointes, parce qu'il y a de grandes chances que, une anguille sous roche, et que vous risquiez de vous faire avoir et de donner des informations, ou voire pire, de vous faire infester par un virus. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir donné un maximum d'informations qui vous seront utiles pour identifier comment les fraudeurs s'y prennent pour essayer d'obtenir des informations et de vous d'entrer dans votre système informatique, et que grâce à ces messages-là, vous serez plus solide pour faire face à ce type de fraude. En tout cas, je vous dis à très bientôt et restez vigilants. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast, ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.